Bonsoir, bonsoir à tous. Elle avait été libérée il y a un an après avoir passé 4 ans aux mains de djihadistes au Mali. Sophie Pétronin est secrètement retournée sur place. Elle y est depuis plusieurs mois, information Radio France que nous vous détaillerons dans un instant avec Olivier Poujade. Nicolas Sarkozy qui se présente devant le tribunal mais qui refuse de s'expliquer en tant que témoin dans l'affaire de la frénésie de sondage de l'Élysée. Je n'ai pas de compte à rendre, a-t-il dit. On verra ça. Dans l'actualité aussi ce soir, cette nouvelle phase dans le procès fleuve des attentats du 13 novembre, consacré cette fois à la personnalité des accusés. On reviendra sur l'annonce du contrat engagement jeune, officiellement présenté, ça y est, par le gouvernement. Ce sera aussi au menu du téléphone sonne ce soir, Jérôme.
Oui, comment aider les jeunes sans formation, sans diplôme à retrouver un emploi? Emmanuel Macron a longuement hésité avant de dégainer son contrat engagement ce matin, 500 euros par mois, avec des contreparties. Est-ce la bonne réponse? Comment va fonctionner ce dispositif? Qui pourra y prétendre? Qu'est-ce que ça peut changer au fond pour les jeunes les plus en difficulté du pays? J'attends vos appels, 01 45 24 7000.
Et toujours dans ce journal, la COP26, deuxième jour, l'Europe promet 1 milliard pour lutter contre la déforestation. Notre série Eco Warriors s'arrête au Brésil ce soir. Et puis en tennis, le match de la soirée. C'est Djokovic, je m'en étrangle, qui entre en lice dans le Masters 1000 de Paris-Bercy. Nous y serons bien sûr.
France Inter.
Et on commence ce journal avec cette information que nous révèle la rédaction internationale de Radio France. Sophie Pétronin, détenue pendant 4 ans par des groupes djihadistes au Mali, libérée en octobre 2020. On apprend que l'ancien otage a regagné Bamako. Les autorités maliennes ont d'ailleurs émis un avis de recherche la semaine dernière. Bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir.
C'est donc en mars dernier que Sophie Pétronin a décidé de rejoindre le Mali.
Oui, 5 mois seulement après sa libération et en dépit des nombreux refus qu'ont opposé les autorités consulaire malienne à ses demandes de visa, Sophie Pétronin a choisi d'entrer au Mali de manière irrégulière. Selon nos informations, mars dernier, elle se rend donc dans un premier temps au Sénégal et se lance dans un périple de 3 jours, en bus puis en mototaxi, accompagnée de son fils Sébastien. Elle franchit un poste frontière sans aucun problème et rejoint sa destination finale, la ville de Bamako, où elle se trouve actuellement. Ce que nous pouvons également affirmer, c'est que dès son arrivée, l'imam Diko, figure religieuse très influente dans la politique locale, a été informé de sa présence dans la capitale. Impossible de savoir en revanche les raisons pour lesquelles les autorités ont attendu plusieurs mois avant de lancer un avis de recherche. Sa présence sur le territoire malien a fuité en réalité vendredi dernier après la diffusion d'une note de la direction de la gendarmerie malienne.
Et Olivier, est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que Sophie Pétronin a voulu revenir donc au Mali?
Ce qu'on sait, c'est que Sophie Pétronin, 76 ans, a fini par convaincre son fils Sébastien de la raccompagner à Bamako. Selon son entourage, l'ancien otage installé en Suisse se disait dépressive. Elle ne supportait pas sa vie loin du Mali et n'avait qu'une seule idée en tête, retrouver sa fille adoptive qu'elle n'avait plus revue depuis le 24 décembre 2016, date de sa prise d'otage par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. À sa libération l'an dernier, on le rappelle, Sophie Pétronin avait provoqué une polémique après avoir manifesté une forme de sympathie à l'égard de ses ravisseurs.
Merci Olivier Poujade de la rédaction internationale de Radio France. Dans l'actualité ce soir aussi, cette nouvelle attaque à Kaboul. 19 personnes tuées ce matin et 50 autres blessées dans l'attaque d'un hôpital militaire. Double explosion suivie de tirs. Attaque qui survient dans un climat de violence croissante entre les talibans et le groupe djihadiste rival de l'État islamique. Et puis une montagne de gravats sur une des avenues les plus huppées de Lagos et des dizaines d'ouvriers toujours dans les décombres après l'effondrement d'un gratte-ciel en construction. Au Nigeria, les services de secours ont poursuivi leur travail aujourd'hui. 7 personnes ont été sauvées des ruines de cet immeuble de 21 étages. 7 autres sont mortes.
En France, moins d'une heure après son arrivée, Nicolas Sarkozy a quitté le tribunal de Paris en début d'après-midi.
Un tribunal où il avait été sommé de se présenter, de comparaître en tant que témoin dans l'affaire des sondages de l'Élysée. L'ancien président, couvert par son immunité présidentielle, n'aura pas apporté l'éclairage qui lui était demandé, contestant très vivement les conditions de sa comparution. Situation inédite puisque jamais la justice n'avait contraint un ex-chef de l'État à témoigner sur des faits en lien avec des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Nicolas Sarkozy a estimé ne pas avoir, je cite, de compte à rendre sur l'organisation de son cabinet ou sur la façon dont il a exercé son mandat. Bonsoir Laurélie Carive.
Bonsoir.
Vous étiez à l'audience, comment cela s'est passé?
Sitôt après avoir prêté serment, Nicolas Sarkozy demande à faire une déclaration spontanée, inconstitutionnelle, disproportionnée. Il fustige la décision du tribunal qui a choisi de le contraindre à venir s'expliquer. « Je n'ai pas le droit de témoigner », martèle l'ancien chef de l'État qui invoque d'une part son immunité, de l'autre la séparation des pouvoirs. « Je n'ai pas à vous rendre de compte, ne pas vous répondre, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Si un ancien président n'applique pas la Constitution, alors qui le fera ?» Face à la litanie de questions que lui pose le président, Nicolas Sarkozy oppose donc un silence tendu, se balance légèrement d'avant en arrière pour marquer son agacement. Lâche au passage quelques commentaires acerbes au sujet de Patrick Buisson, son ancien conseiller. Son audition aura-t-elle permis de faire avancer les débats? Pas sûr, mais Jérôme Carcinti, avocat de l'association Anticor, préfère y voir la force du symbole.
Il n'a répondu sur le fond à rien. Il est venu expliquer ce qu'était sa conception de l'immunité. Certes, il n'a pas fait avancer le débat de fond, mais je crois que judiciairement, on a de plus en plus le sentiment que la justice, elle est égale pour tous et qu'on ne peut pas s'abriter derrière des fonctions pour éviter de comparaître devant le tribunal et de répondre de ses actes.
Le procès se poursuit donc jusqu'au 10 novembre. Nicolas Sarkozy, de son côté, a annoncé avoir déposé un recours pour contester le mandat d'amener qui avait été prononcé par le tribunal.
L'Aurélie qui arrive avec les moyens techniques d'Arthur Gerbeau. La parole est aux accusés. Nous revoici au procès des attentats du 13 novembre où la Cour spéciale a commencé à examiner la personnalité des 14 hommes accusés d'avoir participé aux attaques, à commencer par Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie. 11 sont détenus, 3 comparaissent libres. On retrouve tout de suite Ariane Grissel qui a suivi cette journée pour France Inter. Pas de provocation de la part de Salah Abdeslam aujourd'hui, Ariane.
La voix posée, Salah Abdeslam démarre par son enfance. J'étais calme, gentil, aimé de mes professeurs. Cheveux ras, barbe fournie, chemise beige, l'accusé semble vouloir soigner son image. Quand il est mis en difficulté, il répond calmement « Je ne souhaite pas m'exprimer sur ce point ». Salah Abdeslam, 32 ans, se présente comme d'origine marocaine, né en Belgique, de nationalité française. Un jeune de Molenbeek qui a connu les fêtes, l'alcool, les casinos. « Je vivais comme vous m'avez appris à vivre ici, en Occident ». Invité à en dire plus sur ses valeurs occidentales, l'accusé précise « Vivre comme un libertin, sans se soucier de Dieu, faire ce qu'on a envie. » Amateur d'échecs, il explique avoir cessé parce que j'ai appris que c'était interdit par l'islam. Pourquoi cette radicalisation et pourquoi les attaques? La question ne sera étudiée à l'audience qu'en janvier. Aujourd'hui, il est question des années d'avant, un peu du présent aussi. Salah Abdeslam déplore ses conditions de détention, cette cour de promenade dont il affirme qu'on n'y voit pas le ciel. « Je l'ai visité », intervient le président, « il me semble qu'on le voit ». Sur le banc des parties civiles, un homme hausse les épaules, l'air désabusé avant de glisser. Nos enfants, ils sont au ciel.
Récit signé Ariane Grissel avec à la technique Virginie Lorda. L'actualité judiciaire ce soir, ce sont aussi Michel Platini et Sepp Blatter renvoyés devant la justice suisse dans l'affaire du paiement suspect de 2 millions de francs suisses. Procédure après 6 années d'enquête pour soupçon d'escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Et puis Fabien Azoulay, ce franco-américain de 43 ans interpellé à Istanbul il y a 4 ans, condamné à presque 17 ans de prison en Turquie pour détention de stupéfiants et transféré le mois dernier en France avec une peine de 5 ans. Il vient d'être libéré dans le cadre d'un aménagement de peine, annoncent ses avocats. Cela faisait des mois que le tissu associatif, les organisations de jeunesse ou étudiantes, les professionnels au contact des jeunes les plus éloignés de l'emploi attendaient le verdict du gouvernement sur le dossier de la garantie jeune universelle. C'était le nom du projet au départ, rebaptisé par le président en juillet dernier « Revenu d'engagement pour les moins de 26 ans ». Mais il s'appellera finalement « Contrat engagement jeune ». C'est a priori le dernier mot de l'exécutif. Jean Castex a enfin officialisé les choses ce matin lors d'un déplacement à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Pas de dispositif proche du RSA jeune, on l'aura donc bien compris. L'exécutif ne veut surtout pas laisser planer le doute. Mais une allocation de 500 euros par mois sur un an, 18 mois éventuellement, en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement pour environ 400 000 jeunes. On est loin du 1,4 million annoncé au début de l'été qui devait englober les travailleurs pauvres comme les livreurs à vélo. Le député non inscrit, ex-LREM de Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin ne cache pas sa déception. Écoutez.
Pourquoi le gouvernement a choisi un dispositif d'accompagnement aussi rétréci? C'est quand même aberrant. Au moment où on a des millions de jeunes qui souffrent en sortir de la crise du Covid, le gouvernement annonce simplement un contrat d'engagement qui va concerner 500 000 jeunes, qui va être mis en œuvre. Imaginez le 1er mars 2022, à un mois de la présidentielle. Il aura fallu 5 ans pour que le gouvernement élabore un dispositif pour aider financièrement les jeunes. Et en plus, il n'est pas adapté. Il fallait quelque chose de beaucoup plus global pour les travailleurs précaires, pour les étudiants en situation de précarité. Et donc là, on se retrouve avec un dispositif qui nous paraît louper complètement la cible.
Mathieu, orphelin avec Raphaël Delvolvé. De son côté, Stéphane Vallil, président de l'Union nationale des missions locales, est lui beaucoup moins dur. Il voit en tout cas les aspects positifs de ces annonces.
Ça va être des moyens supplémentaires. On est content que l'État se rende compte qu'il faut vraiment des moyens supplémentaires pour s'occuper des jeunes, notamment ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, pour faire du coût humain comme l'État l'a annoncé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le réseau des missions locales. Après, on est vigilant. On a encore beaucoup d'interrogations puisque le dispositif n'est pas encore très précis. Nous, on souhaite, le réseau des missions locales, qu'on puisse accompagner l'ensemble des jeunes qui sont en situation ni en emploi ni en formation et qui ont besoin de notre accompagnement. Et donc, plus les moyens seront là, mieux ce sera pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est l'intensité du suivi. C'est bien aussi que les jeunes s'engagent, je pense, également dans un suivi qui leur permettra d'avoir un emploi à terme.
Le président de l'Union nationale des missions locales, Stéphane Vallil, la mesure coûtera 550 millions d'euros par an, selon le gouvernement. Début du dispositif au 1er mars 2022. Dispositif présenté également ce matin par Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.
Et ce sera le sujet du téléphone sonne juste après votre journal. Claire Chaudière, 19h11. L'entourage d'Emmanuel Macron se dit ce soir très irrité, mais à propos d'un tout autre dossier.
Oui, après la fuite d'un SMS adressé par le président français au Premier ministre australien Scott Morrison. Message au sujet du méga contrat de sous-marin qui sème le trouble quant à la version avancée par Paris, en répétant notamment avoir été trompé dans cette affaire, c'est ce que dit Paris. Paris dit qu'il y a eu mensonge, une fuite dans la presse qui provoque un regain de tension diplomatique entre la France et l'Australie. Explication, Timur Özturk.
L'entourage d'Emmanuel Macron parle de méthodes très inélégantes. Dans ce SMS publié par la presse australienne, le président français demande au Premier ministre australien Scott Morrison « Dois-je m'attendre à de bonnes ou de mauvaises nouvelles pour notre ambition conjointe sur les sous-marins ?» Le message est envoyé 2 jours avant la rupture du contrat. Le sous-entendu est donc qu'Emmanuel Macron était au courant avant l'annonce officielle. Or, le président français soutient exactement l'inverse. La divulgation de ce SMS intervient après une nouvelle péripétie dans la crise diplomatique entre la France et l'Australie. Dimanche, en marge du G20 à Rome, Emmanuel Macron a été interpellé par un journaliste australien qui lui a demandé s'il pensait que Scott Morrison lui avait menti. « Je ne le pense pas, je le sais », lui a répondu le président français. La fuite de ce SMS dans la presse australienne semble surtout être une riposte sur mesure à cette accusation.
Timur Özturk, au deuxième jour de la COP26 à Glasgow, l'Union européenne s'engage à allouer 1 milliard d'euros à la protection des forêt sur 5 ans, c'était le sujet du jour avec les émissions de méthane. Ne pas perdre une décennie de plus, enrayer la déforestation avant 2030, protéger dès maintenant ces surfaces qui sont autant de puits à carbone à la surface de la planète. Discours d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, devant les milliers de délégués réunis en Écosse.
Nous devons réduire les émissions rapidement. Et le méthane est l'un des gaz que nous pouvons réduire le plus vite. Il est responsable d'environ un tiers du réchauffement de la planète depuis la révolution industrielle. Il a un pouvoir réchauffant 80 fois supérieur au CO2. Et aujourd'hui, les émissions de méthane augmentent plus vite que par le passé. Donc réduire les émissions de méthane est l'une des choses les plus efficaces pour limiter le réchauffement climatique à court terme et garder l'objectif d'un degré et demi.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, un peu plus tôt, une déclaration commune a été adoptée par plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada ou la forêt amazonienne, le tout sous le regard toujours très critique des ONG. La forêt amazonienne, c'est justement là que vit Artemisa, 21 ans, membre d'une tribu autochtone au Brésil. Elle se bat justement pour protéger les forêts et les peuples qui y vivent. C'est la deuxième étape de notre série toute cette semaine dans le journal de 19h, Eco Warriors. Son portrait signé Clémence Pénard.
Du haut de ses 21 ans, Artemisa est animée par un double combat. Se battre pour la Mère Terre, c'est se battre pour nos vies. Nous sommes la résistance et nous sommes les peuples indigènes.
Protéger la nature et protéger les siens, les autochtones, qui sont au Brésil victimes de racisme et de nombreux préjugés.
Au-delà de la façon dont on nous regarde, la façon dont on nous enferme dans le stéréotype indigène, j'ai subi beaucoup de violence. Nous devons lutter pour décoloniser ces mentalités qui nous entourent depuis plus de 500 ans.
Et la jeune femme craint aussi, depuis le début du mandat de Jair Bolsonaro, de voir son territoire transformé en un désert d'ici quelques années.
Avec ce qui se passe au Brésil, surtout avec le gouvernement actuel, qui veut toujours tuer nos forêts, avec l'agro-industrie, les compagnies minières, je crois que les autres pays vont conclure un accord pour écouter les peuples autochtones, leur permettre d'être entendus, pour que notre terre, qui est à la fois notre maison, notre esprit, notre corps, ne soit pas détruite.
Artemisa ne participe pas à la COP26, mais elle place donc tous ses espoirs dans les dirigeants du monde.
Sujet de Clémence Pénard.
La suite du bras de fer entre Paris et Londres sur la pêche et Boris Johnson qui lance un nouveau message de fermeté.
Oui, la position britannique n'a pas changé, vient de dire le Premier ministre. En attendant la deadline de Paris, finalement repoussée de 48 heures avant que les discussions aboutissent, la France n'appliquera pas donc de sanctions à l'encontre des Britanniques. Pas en tout cas avant une réunion ministérielle, elle est prévue jeudi à Paris, réunion à laquelle est convié le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, David Frost. Au cœur du problème, le cas de l'île anglo-normande de Jersey. Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches de Normandie, participait à une réunion en visioconférence ce matin avec le gouvernement depuis Cherbourg.
Ce qu'on nous a dit, c'est que la négociation la plus dure était avec Jersey, donc pour les navires qui sont concernés par les accès aux eaux de Jersey, et que la discussion se faisait maintenant quasiment au cas par cas. Initialement, la France avait demandé 216 permis d'accès, je parle de Jersey, je parle pas du reste. La France a obtenu 169 permis, d'un côté 113 bateaux qui ont leur permis validé pour l'année, et 49 bateaux qui ont un permis provisoire jusqu'au 31 janvier. C'est pour ces bateaux-là qu'on discute actuellement. La difficulté, elle est bien là. C'est-à-dire que là, on a affaire à des bateaux qui font moins de 12 mètres, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, dans le faisceau de preuves qu'on doit amener, on n'a pas le pointage par satellite de ces bateaux-là. On a fourni des choses solides et en face, on a Jersey qui n'a peut-être pas la même grille de lecture et qui ne retient pas les mêmes preuves que nous. Nous, on a bien redit qu'il fallait être intransigeant sur ces bateaux-là, quoi. Et si on n'a pas tout le monde, effectivement, les mesures de rétorsion, il faut les activer. Ils nous répondent qu'ils feront le maximum, évidemment. Si les Anglais nous expulsent de l'euro, on va se retrouver tous concentrés dans les mêmes zones et là, on va droit vers des problèmes de ressources.
Dimitri Rogoff, le président du comité régional des pêches de Normandie avec Rémi Brancato. Allez, le tennis et la suite du Masters 1000 de Paris-Bercy. Novak Djokovic, le presque meilleur joueur de tennis au monde, rentre dans le vif du sujet d'ici quelques minutes. Le Serbe profite du Masters 1000 pour faire son retour. Un mois après sa défaite en finale de l'US Open à New York, il dispute le second tour face au Hongrois Marton Foscovich. Bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Claire.
Vous suivez la compétition pour France Inter, gros enjeu pour Djokovic, un joueur dont toutes les déclarations sont scrutées depuis ces derniers jours.
Et notamment sur une question, êtes-vous vacciné ? Novak Djokovic refuse systématiquement de répondre à cette question en conférence de presse. C'est privé, cela ne se demande pas, dit-il, de quoi alimenter évidemment les doutes sur la participation du numéro 1 mondial à l'Open d'Australie. Ce sera du 17 au 30 janvier, ce pays où les confinements à répétition ont profondément marqué la population et qui a fait connaître les mesures sanitaires pour les athlètes qui disputeront le premier grand tournoi de la saison. Une semaine de quarantaine pour les vaccinés, une quarantaine stricte, sans préparation physique, sans sortie extérieure pour les non vaccinés. Pas de quoi être dans les meilleures conditions pour aller jusqu'en finale. Pour Djokovic, 34 ans, 9 fois vainqueur à Melbourne, le tournoi qui lui réussit le plus devant Wimbledon, devant Roland-Garros, devant l'US Open à New York, c'est l'occasion rêvée de remporter un titre de plus que ses deux principaux rivaux pour entrer dans l'histoire. Le Suisse Roger Federer, l'Espagnol Rafael Nadal, eux aussi compteurs bloqués à 20 titres du Grand Chelem. Djokovic risque de ne pas être le seul à s'interroger sur sa participation. Plus de 35% des tennismen professionnels ne sont pas vaccinés, eux qui sont pourtant les sportifs à franchir le plus grand nombre de frontières sur une saison.
Guillaume Batin en direct de l'Accor Arena. Et puis en foot, en Ligue des Champions, quatrième journée du championnat, le LOSC se déplace ce soir sur la pelouse du FC Séville, un adversaire redoutable pour les Lillois. Jérôme Cadet.
Claire Chaudière pour le journal. Merci à vous Claire, à demain. Nous on reste ensemble pour le téléphone sonne dans un instant. Toutes vos questions sur le contrat d'engagement jeune, vous en avez parlé, il a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement pour ramener les moins de 25 ans vers l'emploi. Avant cela, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Sébastien Léas, il va pleuvoir cette nuit.
Oui, la perturbation qui s'étend actuellement entre la Loire, la Garonne et le Massif central va balayer le pays entre ce soir, cette nuit et demain matin, s'accompagnant d'orages et apportant parfois de bonnes pluies, notamment sur une large moitié est. On attend d'ailleurs de la neige sur le relief des 1200 mètres, mais parfois des 800 mètres, notamment sur l'Ain et l'ouest de la Savoie. Demain après-midi, cette perturbation s'attardera encore sur les Alpes et la Corse, ainsi que le long des Pyrénées. Ailleurs, des éclaircies se dessineront. Le soleil brillera davantage sur le Languedoc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône. De belles éclaircies perceront aussi sur le nord-ouest, notamment le matin. Mais par endroits, les nombreux nuages pourront lâcher des averses localisées et temporaires. Le risque d'averse sera plus marqué sur l'Aquitaine, avec même des orages.
Et de la fraîcheur demain.
Oui, depuis le début de la semaine, les températures baissent régulièrement. Demain, les maximales seront le plus souvent sous les valeurs de saison. 10 degrés à Metz, 11 degrés à Lille, Besançon et Tarbes, 12 degrés pour Paris, Caen et Tours, 13 degrés à Lyon et Montauban, 14 degrés à Bordeaux et Rennes. Autour de la Méditerranée, on attend 16 degrés à Perpignan, Nice et Aubagne et on ira jusqu'à 20 degrés à Ajaccio.
Sébastien Léas, Météo France.